la semaine dernière dans le bureau de par Jupiter.
Bon, pour l'avant-dernier jour de best-of, comme vous avez quasiment rien foutu en fait. Je vous propose de continuer sur cette lancée.
Ah, hein. Super, d'accord.
Voilà. Mais on a quand même. Alors, moi j'aimerais, ma plus-value, je voudrais qu'on ait un vrai invité gold avant la fin de la semaine. Voilà.
Ah, tu veux dire un invité viserec,
quoi. Une invitée, quoi. Ouais, idéalement, voilà. Qui serait né avant le Moulin Rouge.
Bah, quelqu'un qui a de l'envergure, qui a du panache. Ouais, voilà.
C'est-à-dire que les autres, ils étaient pas assez gold pour toi.
Non, mais voilà. Ah. Alors, je pensais à Lynn Renault, voilà. Pour ce chien dans la vitrine.
Non, mais pourquoi pas Michel Drucker?
Et pourquoi pas?
Peut-être parce qu'on l'a jamais reçu.
Hélas, on l'a jamais.
Non, mais Lynn Renault, c'est une bonne idée. Elle était vraiment bien, l'émission avec elle. Et puis, on l'adore, Lynn Renault.
Ouais, un petit peu comme notre mamie de droite.
Oh, Lynn Renault, c'est quelqu'un d'engagé.
Oui, un peu comme notre mamie de droite, quoi.
Non, mais allez, on l'aime bien. Oui. Lynn Renault, c'est validé.
Bon, d'accord, mais on compense avec un marxiste alors.
Ouais.
Eh ben parfait. Oui. Bah, on a qu'à mettre Jean-Louis Debré.
Quoi?
Pour rire.
Ah bon.
Je sais bien, il est plutôt Trotsky, lui.
Non.
Ah, c'est bon, non, je l'ai. Cabu, ce serait bien. Ah. On est content de le réentendre.
Ah ouais, Cabu, j'adore.
Bah, tu m'étonnes, il t'a rendu hommage. Hein.
Ah bon?
Bah, le grand Duduche. Oui, bien sûr.
Excellent. Allez, c'est bon. Ah bah, comme ça, on y va pour le florilège avec le grand et la grande Duduche.
Oh, Céline, quand même.
France Inter, vous écoutez les florilèges d'automne, cet espace où la blague fait rougir le feuillage de l'actualité. Toute cette semaine, nous sommes allés rechercher les grands crus de notre émission et le millésime 2021 des chroniques. Alors aujourd'hui, nous allons réentendre Lynn Renault que nous avions invité en 2017. Et puis nous réentendrons le dessinateur Cabu qui fut l'un de nos tout premiers invités parce qu'on rêvait de le rencontrer, en vrai.
Ouais.
Oui, c'était en octobre 2014. Ce sera donc une émission garantie sans chloroquine et sans les jeunes avec Barnier, mais heureusement avec la caricature. Bonjour Alex.
Bonjour Charlie Denonacker.
Alors pour entourer Hélène Renaud et Cabu, vous avez choisi des chroniqueurs du millésime 2021 de par Jupiter.
Pas que pour Hélène Renaud, j'ai gardé Clara Dupont-Moneau, puisqu'elle chroniquait son livre Une drôle d'histoire. Et j'ai également gardé Guillaume Meurice, puisqu'il était allé au meeting d'un certain Emmanuel Macron.
Ah,
et je ne vous dis pas si cet homme peut-être a eu du succès à la présidentielle qui a suivi. Pour Cabu, là, j'ai réactualisé. J'ai pris du Émeric Lomprey. On ne le connaissait même pas en 2014, ce Émeric Lomprey. Et là, il nous annonce qu'il va voter Macron grâce à McFly et Carlito. Une bonne chronique. J'en ai de bons souvenirs, évidemment. Et la dernière, c'est Frédéric Fromet.
Ah oui.
En duo. En duo aujourd'hui avec Constance. Et c'est vrai que c'est Nitro et Glycérine qui chantent ensemble.
Oh là là,
et là, ça parle d'éolienne.
Ils se sont trouvés ces deux-là. Allez, on rembobine la cassette de toutes nos émissions pour se retrouver donc en compagnie de Lynn Renault.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Lynn Renault.
Bienvenue chez vous Charline.
Et vive le Nord.
Mais oui.
Lynn Renault, vous publiez un livre qui s'appelle Une drôle d'histoire avec Bernard Stora. C'est paru chez Robert Laffont. Alex Vizorek, qui est fan de vous, hein, vous l'avez compris. Hein. C'est Alex Vizorek est votre fan numéro 1.
On s'est rencontrés, ça fait tilt.
Mais
franchement.
Ne racontez pas tout parce que sinon les rumeurs les plus folles vont courir. Mais non, ce qui est formidable dans l'aventure de ce livre, c'est que vous n'êtes pas écrivain, Lynn Renault, et il vous arrive quelque chose dans la vie plus fort que le romanesque, et on vous dit, mais ça vaut un livre.
Oui, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais ça vaut un livre, ne vient pas de moi.
Oui, je sais.
C'est-à-dire que je portais cette histoire, et mes proches me voyaient bien, j'en parlais souvent, j'étais mal avec cette histoire. Et Bernard Stora, avec qui je suis très proche depuis des années, qui a écrit avec moi et mes secrets aussi, m'a dit, tu dois exorciser ça, tu dois raconter, et peut-être qu'on peut en faire une fiction à la télé. Et finalement, on a fait ce livre ensemble. Moi, je ne suis pas écrivain, vous l'avez dit. Disons que je fais, la toile, et lui, il la tisse. Voilà.
Mais c'est parce que vous êtes Lynn Renault, parce que la vie vous a amené cette histoire, qu'elle est formidable, parce qu'elle est vraie. Donc, dans votre loge, on vous amène une fan de 17 ans qui vous adore.
Oui.
Donc là, ça part comme plutôt une comédie positive.
Et oui, mais il y a surtout quelque chose, c'est que je suis très attachée aux fans. J'ai toujours, dès la première lettre reçue, celle-là, j'ai dû l'embrasser, même quand vous recevez la première lettre de fan. Et j'ai toujours gardé, je leur réponds. Quand quelqu'un va très mal, il laisse son téléphone, j'appelle.
Vous faites des chèques?
J'en ai fait. J'en ai fait. Et puis, voilà, j'ai ce contact avec eux. Donc, je ne suis pas prudente, mais je suis gâtée aussi. Depuis toutes ces années maintenant, ça fait 73 ans de carrière, je n'ai à raconter que cette histoire qui a été malheureuse. Tout le reste a été magnifique dans ma vie avec les fans, voilà.
Est-ce que vous reprochez quelque chose dans cette histoire qui est une histoire de couple star-fan, parce qu'elle dure une dizaine d'années, cette histoire. Et sur la longueur, à un moment, elle finit par essayer d'abuser de vous, et puis après, l'histoire, je la laisse découvrir. Mais est-ce que vous, vous vous reprochez quelque chose dans la création de ce couple ?
Je me reproche d'avoir été naïve, parce que, aussi, il y a quelque chose que vous savez, j'ai toujours été en manque d'enfants. Et donc, donc de petits-enfants maintenant, bien entendu. Et donc, quand cette gamine arrive à 17 ans, que sa maman est avec elle, et qu'elle me raconte que depuis, que je ne sais pas quelle, elle a ses murs tapissés, donc de photos, d'affiches, etc.
Elle a un classeur sous le bras,
où moi, quand je regarde ce classeur, bon, je dis, elle a quelques photos comme ça. Pas du tout. Des photos d'archives que nous cherchons. Quand je faisais des émissions de télévision en Italie, je n'avais rien. Je les trouve dans son dossier. Quand je faisais les émissions à la BBC en Angleterre, en 51 et 56, je n'ai rien. Elle en avait.
Même des sextapes, je crois que...
Qu'est-ce que tu racontes ?
Ne l'écoutez pas, Aline.
Je ne perds pas ma parole.
Non, ne l'écoutez pas.
Je veux pas t'entendre.
Ne l'écoutez pas. Citizens sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, les florilèges d'automne, où l'on retrouve Lynn Renaud dans une émission qui date de 2017. Et tout ça ne nous rendra pas Jacques Chirac. On va aborder ce premier sujet avec vous, Lynn, parce que vous savez, on aime rire de la politique, on aime rire de tout. Pour gagner ces galons de tribun politique, il faut avoir quelques lettres. Un discours ne tient pas la route sans citer un ou plusieurs auteurs, afin d'étayer ses théories ou en voulant étaler sa culture.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là.
Suzanne Gabriello. J'ai fait une petite recherche, j'ai appris que c'était la compagne de Jacques Brel à un moment, et c'est pour elle qu'il aurait écrit « Ne me quitte pas », sauf que c'est lui qui l'a quitté. Comme ça on est raconté, c'est une émission un peu culturelle aussi, hein, politique, culture. Justement, c'est un article à lire dans l'Express intitulé « Comme l'a si bien dit machin chose » sur la façon dont les politiques usent des citations de grands auteurs dans leurs discours. Je me disais, Lynn Renaud, quand par exemple Marine Le Pen cite Victor Hugo ou que Sarkozy cite Jaurès, est-ce que ça les crédibilise à vos yeux? Ou parfois, ça peut paraître ridicule un peu.
Non, je ne sais pas s'ils sont... Je ne les connais pas suffisamment, par exemple, ceux qui se présentent au présidentiel actuellement, mais ils sont peut-être cultivés, et quand ils faisaient leurs études, ils ont été peut-être imprégnés par une citation, et ils éprouvent... Ils pensent que par cette citation, ça sera mieux que par eux-mêmes. Donc, ils emploient la citation qui les a... imprégné étudiant.
Après, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, Lynn Renaud, mais il y a parfois l'idée qu'on a l'impression que c'est pas des phrases souvent qui vont très loin. Quand par exemple il cite Camus, alors c'est Benoît Hamon qui avait cité Albert Camus, il dit « Faites comme Camus, voyez, regardez, désirez l'été qui vient ». Enfin, Michel Drucker, il peut dire pareil. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais c'est ou alors il cite. Non mais c'est très plat en fait. Il cite Gandhi.
C'est quand Camus était présentateur météo.
Voilà, c'est ça. Mais il a cité aussi Gandhi. Mais c'est une phrase qui est réversible pour tout le monde. Mm-hmm. Marine Le Pen aurait pu la dire. Gandhi, c'est soyons le changement que nous voulons pour le monde. Vous imaginez l'inverse ? Ne soyons pas le changement que nous voulons pour le monde. Vous voyez, ça n'a aucun. Okay, c'est évident quoi.
Comment vous clashez Gandhi, Clara Dupont-Renaud ?
Je clash Gandhi Dupont-Renaud.
J'aime beaucoup. Quand... Là, ça y est, mon voisin de gauche va me taper dans ma jambe avec sa jambe.
Non, je le retiens, Aline, bon, je le retiens.
Bon, c'est Guillaume, qu'est-ce qu'il va dire ?
J'aime beaucoup quand Macron cite De Gaulle. Mm-hmm. Voilà, alors c'est la gaulliste que j'étais, que je suis, que je reste. J'apprécie beaucoup.
Mais ils citent tous De Gaulle, tous.
Oui, il faut, c'est vrai que Lynn Renaud a raison, Macron fait partie des plus fins lettrés parmi les candidats à la présidentielle quand même, par ses études.
Parce qu'il a une vraie culture, Macron.
Et parce qu'il a une prof de français dans son lit.
Oui. Ah bravo, l'élégance en marche, il y a l'élégance en marche.
C'est vrai, alors il y a aussi Mélenchon qui est peut-être le plus cultivé d'entre eux. Vous trouvez qu'il y en a un en particulier qui...
Je sais, vous avez des infos.
Il était à votre anniversaire.
C'est une surprise. Était à mon anniversaire organisé par Johnny.
Ah oui.
Et chez Johnny. Et donc, je ne savais pas qui j'allais trouver. Il y avait Muriel.
Muriel Robin.
Il y avait Camus, mais pas...
Enfin, il y avait Jean-Claude,
Jean-Claude, le producteur. Et qui n'a dit aucune citation. et puis, il y avait... Et d'un seul coup, il y a Brigitte et...
Qui sort du gâteau.
Non, ils étaient là avant le gâteau.
Oh, l'angoisse.
Et là, vraiment, j'écoute. J'ai trouvé un couple. Je suis fan.
Vous êtes sous le charme.
Je suis fan de Macron, oui.
Alors, on apprend, par exemple, dans cet
article... C'est là où j'ai dit, je vais prendre un coup de pied de sa jambe droite.
Je me retiens.
On est tolérant, bien sûr. Bon. Et c'est la chronique qu'on attend tous, celle de Clara Dupont-Monod, sur votre livre, Lynn Renaud.
Et oui, c'est notre actualité aujourd'hui, parce que c'est votre livre, Lynn Renaud, qui s'appelle Une drôle d'histoire, écrit avec Bernard Stora. Alors, pour nos auditeurs, je le précise, vous écrivez à la première personne, c'est autobiographique, et vous racontez comment est-ce qu'une jeune fan, bien sous tout rapport, s'est révélée mythomane et dangereuse. Et vous racontez aussi comment vous n'avez rien vu venir. Autrement dit, c'est un livre qui décortique aussi bien la supercherie que la crédulité. Alors commençons par la supercherie. elle est parfaite. La supercherie en question, elle s'appelle Jennifer, elle a 17 ans, elle est sérieuse, elle est sage, elle a une poignée de main assez franche, et elle porte un petit chemisier à col rond. Personne au monde ne se méfie d'une jeune fille avec un chemisier à col rond. Et c'est un tort, car c'est le premier principe du menteur ou de la menteuse qui consiste à s'arranger toujours pour inspirer confiance à la victime. Dans un livre qui s'appelle « D'après une histoire vraie » de Delphine de Vigan, je ne sais pas si vous l'avez lu, Lynn Renaud, vous le lirez, ça raconte aussi une intrusion. Et comme par hasard, une des scènes primitives, c'est le personnage de Elle, qui est l'intruse, oui. Et elle va déployer des trésors de séduction pour cerner la narratrice qui, du coup, lui ouvre sa vie. Et ça, c'est un des principes du menteur, c'est que le voleur de vie ne force jamais les portes de sa victime. Il se débrouille pour en obtenir les clés. Et donc, ça passe, entre guillemets, comme une lettre à la poste. C'est le deuxième principe, d'ailleurs, du menteur ou de la menteuse, c'est qu'ils le font avec d'autant plus de naturel qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de mentir.
C'est ça.
Voilà. Alors, c'est un des grands principes du mythomane, qui, finalement, s'abuse autant lui-même que son entourage. Et ça aussi, ça fait un point commun, vous noterez, avec les écrivains.
Mais avec des détails, donc voilà. Des détails tellement incroyables qu'on ne peut même pas imaginer que c'est une vie inventée.
Alors, comme tous les affabulateurs, quand même, il y a des points communs aussi avec les écrivains, c'est pour ça que votre histoire, elle est intéressante. Mais en tout cas, ça explique qu'il ait pu se produire dans nos sociétés des faits divers absolument incroyables, comme par exemple celui de Jean-Claude Roman. C'est à lui que je pensais quand j'ai lu votre livre. C'est un homme qui a menti pendant 18 ans à sa famille et à son entourage en se faisant passer pour un médecin. Or, il avait échoué aux examens de médecine et il a fini par trucider tout le monde. L'écrivain Emmanuel Carrère lui a consacré un livre qui s'appelle L'Adversaire. Ensuite, il y a eu un film de Nicole Garcia. Et dans le livre L'Adversaire de Carrère, que du coup j'ai repris, il montre comment est-ce que Jean-Claude Roman se coule dans son personnage, qu'il a pas tellement l'impression de mentir, en fait, c'est très étrange. Mais comment est-ce qu'il est capable d'apprendre par cœur des polycopiés pour tenir une discussion avec un vrai médecin, en l'occurrence c'est un cardiologue, il y a une scène d'un dîner avec un cardiologue, où il mène la discussion, et le cardiologue, en partant, dit quelque chose comme « Oh là là, à côté de lui, on se sent tout petit ». Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a des trésors d'ingéniosité et de naturel qui font que ça enquiste le mensonge et ça installe le personnage. Autre condition pour que la magie noire opère, je vous cite, vous dites « Le mythomane crée un personnage autour duquel s'élabore un roman ». On y revient encore. « À partir de cet instant, ce n'est plus l'imaginaire qui s'adapte à la vie, mais la vie qui, par une succession inouïe de hasards, de coïncidences ou de quiproquos, s'adapte à l'imaginaire. » Et c'est vrai. Et c'est ce qui se passe quand la banquière de Jenny, la fabulatrice, que votre notaire essaie d'appeler, eh bien cette banquière, elle est vraiment pas là en ce moment. Voilà. C'est ce qui se passe aussi quand vous n'insistez pas pour que votre notaire renouvelle son appel ou alors s'adresse à quelqu'un d'autre dans la banque. C'est ce qui s'est passé aussi pour Jean-Claude Roman, le médecin, quand personne n'a eu l'idée de vérifier qu'il y avait bien son nom sur la liste d'admission en médecine, alors que ça aurait été tout simple. Mais on ne le fait pas. Et là, oui, on peut le dire, le réel semble s'adapter au mensonge, il est même vaincu par lui. Alors, je l'ai dit au début, tout ceci n'est possible que si la proie est crédule. Et là, Lynn Renaud, vous avez l'honnêteté de vous demander, mais comment ça se fait que je n'ai rien vu?
Oui.
Et en fait, si, en fait, vous avez vu.
Quelquefois, je demandais si elle était mythomane. Mais mes proches, sont pas de crédules non plus. Cette petite est un cadeau du ciel.
Et alors, du coup, vous avez évacué l'idée, mais après, vous le dites, en fait, j'ai vu. Il y avait des tas de cailloux blancs partout. Mais par contre, je n'avais pas envie de savoir. Ce qui n'est pas pareil. Et vous expliquez dans votre livre que, à ce moment-là de votre vie, vous étiez plus fragile.
C'est ça.
Physiquement, d'abord. Oui. Psychologiquement, ensuite. Donc, ça vous rendait évidemment plus vulnérable. Et ensuite, c'est là où on se rend compte que la mécanique de l'encerclement repose sur des ressorts inconscients dont on n'a pas définition, qu'on ne mesure pas sur le coup. Mais Jenny, quand on y réfléchit, au fond, c'est cette jeune fille que vous n'avez jamais été. Vous disiez tout à l'heure, c'est la fille que je n'ai jamais eue, d'accord, mais c'est aussi la jeune fille que vous n'avez jamais été. Parce que si on résume, elle est sage, vous étiez surnommée la commandante, quand vous étiez petite. Elle est riche, en tout cas elle le fait croire, mais vous ne venez pas d'un milieu riche,
très
et vous
pauvre,
le savez très bien.
Pauvre.
Elle a fait des études supérieures, et vous-même vous reconnaissez que vous êtes arrêté au brevet, et que du coup vous avez toujours eu une forme d'admiration pour ceux qui ont
Exactement.
Fait des études. Et c'est vous, in fine, qui avez le mot de la fin, quand vous dites, En fait, nous voulions y croire, Jenny nous racontait une belle histoire. Et en même temps, c'est absolument magnifique, parce que ce ressort que vous avouez sous-tend toute notre humanité. Parce que c'est quoi cette crédulité ? C'est celle de l'enfant qui croit au conte, c'est celle des amoureux qui s'aveuglent, c'est celle du lecteur quand il lit un roman. Croire au mensonge, c'est aussi une forme de droit à l'illusion. Et ça, pour le coup, c'est humain au sens littéral du terme. Je vous redonne les références. Une drôle d'histoire de Lynn Renault est parue chez Robert Laffont.
Merci.
Elle est magnifique, vraiment magnifique. Merci, c'est tout à fait ça.
Bah tant mieux, mais c'est vous qui l'avez écrit. Hein, c'est pas
on la garde alors, Lynn, on la garde.
Je renouvelle mon contrat alors.
Eh bien, restons dans cette ambiance d'il y a 4 ans, dans cette émission avec Lynn Renault. Je vous rappelle que vous écoutez Les Florilèges d'automne de Par Jupiter. On poursuit en compagnie de Lynn. On va aborder rapidement ce deuxième sujet, Lynn Renault. En France, il est possible de décrocher un contrat de travail dès l'âge de 3 mois. Et oui, ils sont 10 000 enfants à travailler chaque année dans le spectacle, sous une législation très stricte, plus stricte qu'en Belgique par exemple, où les cinéastes français vont tourner des scènes avec des nourrissons. D'ailleurs, en Belgique, Vanessa Paradis et Elsa ont débuté leur carrière assez tard, hein, comparativement.
Aujourd'hui, les talents sont de plus en plus précoces. Et après Elsa, Vanessa Paradis et bien sûr Jordi, ne ratez surtout pas actuellement au Zénith les débuts prometteurs de Féfé le fœtus.
Un sketch des inconnus. Alors voilà, c'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France sur ces 10 000 enfants qui travaillent avec une législation assez stricte. Vous, Lynn Renault, dans votre carrière, au cinéma, au théâtre, dans la chanson, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des enfants ?
Bien là, dans Plein Feu. On vient juste de terminer Plein Feu avec un enfant qui était magnifique, Yanis Richard. Il nous fallait, dans l'histoire, un enfant de 13 ans. Mm-hmm. Donc, si vous prenez l'enfant de 13 ans, il faut que nous en ayons deux. Ou trois.
Parce qu'ils ne peuvent pas travailler trop longtemps.
Alors, Ladislas Cholal, le metteur en scène, a passé un casting, beaucoup, très long, et il a trouvé un gosse de 16 ans qui faisait vraiment 13 ans. Alors sinon, il faut... Je ne sais pas comment ils font pour les choristes, par exemple.
Jean-Luc Lahaye a eu le même problème.
Qui ?
Jean-Luc Lahaye. Oh. Attends,
ne l'écoutez pas, les deux. Ne l'écoutez pas. Et vous-même...
Je ne viendrai plus.
Oh, ben voilà, ben bien joué. Bien
bravo,
joué.
Bravo.
Lynn Renault, vous, quand vous avez commencé votre carrière en chantant, etc.
Il n'y avait pas cette loi.
Non, il n'y avait pas cette loi, bien sûr, mais vous avez commencé très jeune. Est-ce que vous avez vos premiers cachets, c'était avant 18 ans ?
Oui, à 15 ans.
Ah, voilà.
À 15 ans. Mais je ne savais pas que c'était un métier. Quand j'écoutais les chanteurs à la radio, parce qu'il y avait à la télévision à l'époque, moi je croyais qu'ils faisaient ça pour leur plaisir. J'ai réalisé que c'était un métier.
Que c'était pour l'argent, en fait.
Coup de pied sous la table. Est-ce qu'on peut terminer par un petit exercice si on a le temps ? On devra peut-être l'interrompre, mais on verra. Est-ce qu'on peut vous donner un petit rôle, Lynn Renault ? En tout cas, qu'on...
On fait un sketch à la fin de chaque émission. C'est un sketch.
Attends, c'est porno ou pas ?
Non, absolument pas.
Ah non, il n'y a pas de piège.
Vous ne prenez pas au piège.
Il n'y a pas de piège.
Jamais. Vous êtes Martine Aubry, donc je vous ai mis de l'accent ch'ti. Parce qu'on est chez Benoît Hamon et il veut rassembler. Je fais Cazeneuve, Charline fait Royal. Qu'est-ce qui se passe
en ce moment ? Moi, qu'est-ce que je fais ?
Vous êtes Martine Aubry.
Martine Aubry. Où est-elle écrite ? Ah, c'est quand il est écrit Lynn Renault.
C'est exactement ça. Alors, si je vous ai réuni ici, déjà, c'est pour voir si j'étais capable de réunir 5 personnes.
Mais on est 4.
Voilà, donc je suis capable de réunir que 4 personnes.
Bon, okay. Benoît, faisons le bilan.
Bon, alors, vous voulez encore du crément ?
Non, pas de poisson. Le rassemblement, c'est maintenant ?
Avec Mélenchon, comme un emploi FN au Parlement européen. C'est fictif, c'est ça ?
Bon, je te parle du rassemblement du PS.
Oui, tu peux rajouter un G, c'est comme le PSG, quoi. La débandade.
Bon, et Martine Aubry, elle dit quoi ?
Eh, Benoît, mon petit biloute. C'est l'heure du rassemblement.
Merci Martine. Mais t'as des conseils ?
Alors je t'ai apporté du maroilles.
Non mais Martine, la dernière fois tu m'as déjà apporté de la chicorée.
Goûte dedans avant d'en dire du mal.
Le maroilles et la chicorée mélangés ?
C'est comme ça, puis c'est tout.
Sinon quoi ?
Hein ?
Oui, oui, pardon. Sinon quoi ?
Sinon je soutiens Philippe Boutou.
Bon allez Benoît, fais un effort quoi.
Maroilles et chicorée, pardon, mais ça sent.
Oui,
hein.
Ça sent pas la rose. Hein.
Non, ça sent un petit peu la vomitude.
Oui, comme la rose du PS.
Oui, elle sent aussi la vomitude. Oui,
Ségolène.
Oui.
Qui, chat ?
Ah, pardon, Ségolène.
Oh, j'aime le chat.
Elle parle vraiment comme ça, Martine Aubry ?
Pour le sketch, oui.
D'accord. Revenons à Benoît.
Oui. Oui, et moi, alors, je chante Chabichon, oh, ou quoi ?
On est tous ensemble, Ségolène.
Où est-ce que vous en êtes, là ?
Hein ? Quand vous étiez tous avec moi en 2007 ?
Tous ensemble. Je vous le disais tout à l'heure. Tous ensemble.
Martine, ça s'arrange pas, son accent.
Je reconnais que je suis pas aidé, là.
Si seulement on avait le soutien de François Hollande.
Pour gagner, moi, je suis pas convaincu.
Et Yannick Jadot, il est où ? Bah, je l'avais invité, puis il m'a dit qu'il avait piscine. Oh,
Benoît, t'es sûr du chat ?
Ça va, je suis en bonne santé, moi, ça va.
Tu m'inquiètes, un peu.
Le rassemblement est pas prêt d'être en marche.
Hein. Non, surtout pas en marche,
Surtout en marche.
Et ce jour-là, toujours en compagnie de Lynn Renaud, Alex Vizorek, il y a Guillaume Meurice. Mais où est-ce qu'il était allé à l'époque ?
Ben oui, Lynn Renaud, elle aime bien un certain Emmanuel Macron, elle le dit, elle l'invite à son anniversaire, tout ça. Et elle est tombée sur Guillaume Meurice qui était allé, justement, au meeting de ce jeune homme la veille. On écoute ça.
J'étais au Théâtre Antoine hier soir, Lynn. Vous avez joué là-bas ?
Oui,
vous avez joué Harold et Maude, l'histoire de la rencontre d'un jeune homme et d'une dame d'un certain âge.
Oh, je vous vois venir.
Oh, elle me voit venir. Et ben, il y avait le remake hier soir avec Emmanuel Macron et Bribri dans les rôles principaux. Un meeting d'Emmanuel Macron où je me suis rendu. Hein, beaucoup de monde d'ailleurs, plus de 900 000 personnes sur l'échelle de Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. On l'a tellement attendu, on était excités comme Valérie Pécresse au Salon de la Trahison. Mais maintenant, voilà, on le connaît ce programme. Alors on va commencer simple. Qu'est-ce qui plaît à ce supporter d'Emmanuel Macron ?
Je trouve que l'homme se présente avec des idées neuves. Et,
alors quelle idée neuve il a, par exemple ?
Par exemple, sur la politique, d'être ni de droite ni de gauche.
Jean Le Canuet, il disait
oui,
ça.
Oui. Non, mais il y a une ressemblance.
Oui, c'est pas très neuf, alors, du coup, ça.
Il y a surtout une ressemblance, par exemple, avec Giscard d'Estaing.
Ah oui, alors oui. Alors, Giscard, Le Canuet, oui, là, d'accord. Là, on parle de modernité. Manque plus que René Coty. Et puis là, mon petit pote, je vais te dire, ça va être une autre limonade. Louison Bobet dans le comité de soutien et en avant casquette, moi, je te dis. N'hésitez pas à rejoindre, donc, le mouvement en envoyant un télégramme en marche vers le passé. Alors, là, on parle de son équipe, mais ce monsieur m'a bien parlé des idées neuves. Alors, continuons avec lui.
Surtout la régionalisation, déjà la décentralisation.
Ça c'est pas neuf, c'est Jean-Pierre Raffarin.
Bah oui, mais je dis pas qu'il a une mauvaise idée neuve. Mais
ah voilà. Ah oui, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il avait des idées.
Oui, peut-être je me suis mal exprimé.
Oui, parce qu'on voyait pas bien. On voit bien que le gars, il est neuf. Macron, il est neuf. On voit bien que c'est la lessive nouvelle formule. Mais bon, à part qu'on va la payer plus cher, on voit pas le changement. Par exemple, idée pas neuve que Manu a développée, en cas de refus d'une deuxième offre à Pôle emploi, fin des indemnités chômage. Dominique Seux, il a entendu ça. Il a repris deux fois des truffes à la cantine des Échos ce midi. Qu'en pense cet autre militant présent hier soir?
Je crois qu'il avait dit c'est pas la première fois qu'on dit ça, une offre valable où les gens soient payés correct. Mais
sur le refus alors de la deuxième
offre. C'est un peu bon, c'est une mesure parmi d'autres, mais c'est vrai que il faut d'ailleurs ce qui est
C'est pas simple de justifier une bonne vieille mesure anti-pauvre dégueulasse. Alors, ne vous inquiétez pas, Macron a reçu le soutien d'Alain Minc et d'Alain Madelin. Ils vont faire des séances de coaching. À vous le free fight chez Emmaüs, même s'ils se défendent d'être de droite. Attention, poursuivons.
Lui dit, et de droite et de gauche.
Et alors, où est-ce qu'il est de gauche, Emmanuel Macron ?
Bérou, c'était plutôt centre-gauche. Et puis, là, ça va se sentir, puisqu'il va y avoir des ralliements. Il va y avoir des ralliements
dans son programme. Dans son programme.
Vous êtes dur avec moi, là.
J'avoue, c'est une question à la con, je sais. C'est comme si on demandait à Djoubaka sa chanson préférée d'Hélène Segarra. Djoubaka ?
Il n'y en a pas.
Voilà. C'est des questions qui ne sont pas évidentes, ça, je le sais. Mais en même temps, autant vous le dire franchement, le programme, les supporters de Macron, ils s'en foutent complètement.
Faut pas dire aussi que tout se trouve pas forcément dans le programme tout de suite. Je pense qu'on est trop focalisé sur on veut le programme. Je pense que c'est pareil, il faut promettre en disant aussi on va inventer pendant qu'on sera au pouvoir.
Ouais, parce que pour voter, il faut quand même bien qu'on sache le programme.
Eh ben, pas tout, non. Je crois pas, parce que il faut lui faire aussi confiance sans avoir tout pu vous mettre dans le programme.
Alors, ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau pour le coup. Faire confiance au type sans savoir ce qu'il veut faire. Hein, d'habitude, on se fait niquer par les promesses, mais là, on vote pour le type et puis après, ben voilà, ça sera la surprise. Emmanuel Bonux Macron, hein, quand je vous disais qu'il y avait un lien avec la lessive. Et puisqu'on parle de déception, j'ai croisé hier soir un militant que je commence à bien connaître, puisque c'était un des plus fervents supporters de Manuel Valls à la primaire. Ah. Et oui, il était là, donc j'ai déjà eu l'occasion de l'interroger. Il s'appelle Pierre. Et Pierre, il était là pourquoi ?
Je suis toujours au Parti Socialiste et j'avais mon candidat, c'était Manuel Valls, que je soutiens encore.
C'est fini là, c'est fini Pierre.
Non, c'est pas fini.
Pierre, c'est fini.
Mais non, c'est pas fini.
Oh putain, Pierrot. Pierrot, on dirait un supporter du PSG. Encore sous le choc d'hier soir. Bon, alors, ceci dit, c'est fini pour Valls, mais bon, les néolibéraux qui se font passer pour des progressistes, c'est malheureusement loin d'être terminé.
Merci Guillaume Meurice.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie. Il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
Chanter la vie de tous les jours sur France Inter, c'est dans la playlist. On poursuit ces florilèges d'automne, on a quitté Lynn Renault et on va retrouver avec beaucoup de bonheur Cabu. Le dessinateur était venu en octobre 2014, autant vous dire, c'était les tout débuts de l'émission.
Oui.
Je pense qu'on était très très impatients de l'inviter et de le rencontrer.
Et impressionné.
Eh oui, aussi.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Cabu, on va pouvoir vous voir, vous revoir, vous lire, vous relire dans deux gros ouvrages qui sortent là. Il y a d'abord Charlie Hebdo, les Unes, 1969-1981, qui sort aujourd'hui aux éditions Les Échappées. Et puis l'intégrale Beauf, aux éditions Michel Lafon. Alors, le Beauf, tiens, c'est le personnage créé en 74 dans Harakiri, et puis qui est entré au Canard Enchaîné. L'intégrale Beauf, c'est quand même l'histoire contemporaine des 30 dernières années, vue à travers le Beauf.
C'est aussi ce qui vous sert à nous tous, qui sert à tous les humoristes de Punching Ball, quoi. C'est Monsieur Prudhomme, c'est aussi bien tous les guignols qui nous servent tous les jours.
Ah, il y en a un paquet. Il y en avait aussi entre 69 et 81, parce que toutes les unes de Charlie Hebdo.
Oui. Et vous avez remarqué que on retrouve les thèmes d'aujourd'hui quand même, à part la peine de mort. qui n'existe plus, mais je me rappelle d'une couverture Jésus revient en 77, vous vous rendez compte, il revient aussi.
Ah mais oui,
on l'attend toujours.
Dis donc. Oui, c'est le même ou c'est pas le même?
Si, ça doit être le même, mais j'ai retrouvé ça parce que c'est un livre d'histoire aussi. Si vous regardez ce bouquin, on retrouve des tas de choses.
Ah oui. Alors moi, je me rappelle notamment de la une qui disait le roi des cons est mort à propos de la mort du roi Baudouin, roi des Belges. C'est toujours plaisir.
Pourquoi vous vous rappelez de celle-là particulièrement?
Je me rappelle particulièrement, ça m'a marqué. Voilà. André Manoukian.
Moi, je me rappelle de Bal tragique à Colombey, un mort pour la mort
voilà,
de Gaulle.
Voilà, encore
c'est
un mort.
Ça doit être parmi les plus célèbres des unes hein, de Charlie qu'on peut retrouver donc, dans ce gros ouvrage aux éditions Les Échappées. Cabu, entouré de Clara Dupont-Monod, André Manoukian et Guillaume Meurice. Et on dessoud de l'actualité avec vous, Cabu. Premier sujet. Dans un couple normal, on se dispute pour choisir la couleur de la moquette. Chez les Chirac, on se dispute pour se tenir Juppé ou Sarkozy.
Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle?
Pas seulement quand je me rase.
C'est pas convenable. Je vais remonter les bretelles.
Faut le féliciter, bien sûr. Et vous ajouterez mes compliments personnels.
Et ma paire avec, oui. Et sur un plateau.
Extrait du film La Conquête avec le vrai Alain Duhamel et le faux couple Chirac, Bernard Lecoq et Michel Moretti. Voici le résumé de l'épisode précédent. Je vous remets le contexte. Donc dimanche, Bernadette Chirac déclare qu'Alain Juppé est, je cite, très froid, très très froid, il n'attire pas les gens. Aujourd'hui, Jacques Chirac soutient Juppé en confiant au Figaro, je cite toujours, « J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir, et pas dans les dents de Bernadette, et donc par ricochet de Sarkozy. » Cabu, ça vous inspire quelque chose? Ça vous a fait sourire?
Oui, je pense que la différence, c'est que Bernadette, elle peut coacher Nicolas Sarkozy, elle peut l'entraîner en courant, hein, faisant du jogging, tandis que le contraire, ce sera dur. Hein, de...
Mais c'est vrai qu'on imagine bien Bernadette en jogging,
oui,
quand même.
Oui, oui.
C'est vrai.
Ça ferait un bon dessin.
Alors, rappelons quand même que les relations avec Bernadette et Juppé, bien sûr, sont glaciales depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.
Alors, Chirac. Glacial, c'est normal, puisqu'il est froid. Le type est froid, donc.
Oui, c'est Juppé, oui, c'est vrai. Et alors, Jacques Chirac ajoute ce matin dans le Figaro, si j'en avais l'énergie, j'aurais déjà réservé ma place, même une petite, à son QG, à Juppé. Donc, il y va plus fort que Bernadette. Il faut qu'il y remette une couche, quand même.
C'est, Une couche confiance? D'accord.
Bon, ça fait plaisir de les retrouver un petit peu, non? Vous trouvez pas, Cabu?
C'est vrai, hein, mais c'est surtout que c'est le seul pays au monde, je crois, où on retrouve toujours les mêmes, comme ça.
Effectivement, de façon cyclique.
C'est français, ça, vous croyez? Vous êtes sûr?
Ah oui, oui, typiquement. Regardez, aux États-Unis, abattu, il revient jamais.
Non, c'est son fils qui revient, c'est Bush. Ou alors c'est la femme, après Clinton, ce sera Hillary. Enfin, bon, dans le sens.
C'est vrai.
Clara Dupont-Monod.
Ben, on se rend compte qu'en fait, on a beau gloser sur le livre Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, mais on se rend compte que,
de
fait,
votre copine Valérie Trierweiler.
Mais oui, mais on se rend compte que beaucoup de femmes, d'hommes politiques, se sont vengées en fait de leur conjoint à chaque fois. Danielle Mitterrand, elle a mis dans son lit son prof de tennis. Alors François Mitterrand l'a transformé après en son chauffeur, donc il était vraiment pervers. Mais elle a eu ensuite sa fondation France Terre d'Asile. Cécilia Attias, elle s'en va au seuil de la gloire. Mais oui, à chaque fois il y a eu ça. Et là, Bernadette Chirac, et ben ce sont des soutiens inattendus. Mais à chaque fois, on se rend compte que le désaccord dans le couple est souvent quand même règlement de compte.
Est-ce que c'est pas un problème
Madame
de femme plutôt?
Madame Giscard, non, elle a rien
écrit.
Mais
bien, c'est que son mari était irréprochable, alors.
Ah, voilà.
Et Madame Pompidou aussi, on a un tweet qui dit « Cabu, merci pour les aventures de Madame Pompidou ». C'est Marc Ballant qui dit
j'ai
ça.
J'ai eu un procès pour ça.
Ah, que vous avez gagné?
Ben non, j'ai perdu. Ah, parce que c'est Monsieur Pompidou qui me faisait un procès.
Ah bah oui, ça vous attaquait à puissant.
Et alors, la femme du beauf, est-ce qu'elle lui écrit un livre quand elle le quitte ou pas?
Aucun risque, non. Je sais pas si... elle trouverait un éditeur, non, je crois pas.
Elle trouverait pas. Alors, niveau interventionnisme politique, puisqu'on y est, Valérie Trierweiler, c'est de la petite bière par rapport à Bernadette, là. Mais à la différence que Bernadette a un mandat politique, elle est conseillère générale de Corrèze. Alors, ça l'autorise, selon vous, à peut-être intervenir avec ce genre de pique. Et puis, sa voix porte énormément, évidemment. Elle est très aimée des Français.
Vous croyez qu'elle a une ambition? Parce qu'il faut, justement, se rappeler Giscard, qui était retourné. Il était réélu conseiller général. Donc, elle est conseiller général. Peut-être qu'elle a une ambition comme ça pour devenir présidente.
Ce serait amusant, en effet. Et tiens, je voulais lire juste le début de l'article du Figaro où Jacques Chirac se confie, parce que je trouve que le début de l'article est assez amusant. Je cite, « C'est bien connu, dans les couples, le mari et la femme ne votent pas toujours pour le même candidat. » Je trouvais ça pas mal. Alex, si on revenait un tout petit peu en 2021, au moment, à l'actualité, à l'instant, ce qui est brûlant, ce qui reste chaud d'ailleurs.
Eh oui, il est très chaud. Il est très chaud et pourtant il vient du Nord. L'une de nos dernières recrues, et je pense que vous l'aimez bien, c'est Aymeric Lomprey.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais.
J'ai rien entendu.
Ouais.
Coulos, coulos, coulos. Et vous savez quoi? Je vais voter Macron en 2022.
Non.
Bah voilà. Peut-être même en 2027. Peut-être même aussi en 2032. Enfin, de toute façon, dès qu'il va se présenter, je vais voter pour lui. À l'Eurovision, je vote Emmanuel Macron. Meilleur pâtissier de France, Emmanuel Macron. Même s'il se présente pour Miss Paca, je vote pour Emmanuel Macron. Après, je l'emmène dans ma chambre. Après, j'éteins la lumière. Après, je vais au marché. J'achète des courgettes. Et non, il m'excite tellement, Emmanuel Macron. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Avant, je pensais que c'était un trou de balle, mais c'est parce que je m'étais pas encore abonné à la chaîne YouTube de McFly et Carlito. Oh là 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 là, mais comment j'ai pu passer à côté de ces deux loulous? Ah, oh, c'est des génies. Bon, déjà la vidéo, c'est drôle. Il y a du gag. Il y a même un moment. Ils ont fait une vidéo où ils appellent des gens au hasard. Oh, c'est génial. Si j'avais une caméra il y a 60 ans, j'aurais été le premier à le faire, celle-là. Oh, quand j'ai éteint mon ordinateur, je me suis dit plus jamais je dis du mal des chroniques de Meurice. Ah, puis en plus, il y a des invités prestigieux. Emmanuel Macron. Putain, alors pour rappel, pour ceux qui voient pas c'est qui, c'est le président de la République. Je préfère préciser, c'est pas très flagrant sur la vidéo, mais Emmanuel Macron. Waouh! Nous, on est sur le service public. C'est qui l'invité le plus prestigieux qu'on ait eu? C'est Julien Clerc. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai regardé les invités. Dans l'émission, c'était Michel Zinc et Sophie-Marie Laroui. Tu sais, on dirait qu'on invite nos potes du collège, quoi. Lundi, on reçoit Cédric Persao de la 6e B. Et mardi, Michel Biendedans, l'inventeur de la pantoufle. Non, mais les gens, ils ont critiqué la vidéo de McFly et Carlito, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Tu sais, ils disent, Emmanuel Macron, fallait pas l'inviter. Il a cassé le code du travail. Il a bousillé l'assurance chômage. Il a flingué l'hôpital public. Il va foutre en l'air les retraites. Il a éborgné les gens. Il a géré la pandémie avec ses pieds. Il a supprimé l'ISF. Il a fait passer des lois liberticides. Il a fait le pire mandat depuis longtemps pour les pauvres et la classe moyenne. Il a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Ouais, mais il est cool, Manu. Putain, on dirait un moniteur de ski en début de saison. On dit trop. Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous. Vous préférez un président compétent ou un président super sympa? Un président super sympa, évidemment. Un président, c'est comme un ami. Tu vois, moi, je préfère aller boire un coup avec Charline qu'avec Nagui. Bon, Macron, il est génial. Il a même appelé Kylian Mbappé. Et Kylian, il a décroché tout de suite. Pff, vraiment un coup de chance. Tout était très spontané, rien n'était préparé. C'est pas de la promo, je vous le dis. C'est juste un bon moment entre amis, voilà, avec 13 cadreurs autour. Mais les gens, ils sont médisants. Ils disent, ouais, McFly et Carlito, c'est des grosses putaclic qui baissent leur froc pour des vues YouTube. Ouais, mais Alors quoi, j'ai envie de vous dire. On n'a plus le droit d'inviter des gens de droite? C'est ça? Comment ils vont faire, Demorand et Salamé? Hein? Ils vont discuter autour d'un café, tous les deux, pendant 2 heures? Alors Léa, t'as passé une bonne nuit? Oui, Nicolas, et toi? Oui. T'as vu la météo pour un mois de mai? Oui, heureusement qu'il n'y avait pas Roland-Garros. Chut, on est à l'antenne. Et alors? Faut pas dire qu'on est allé à Roland-Garros. Les gens, ils croient qu'on est de gauche. Oui, zut. Tout de suite, le journal de Laetitia Gaillet. Non, mais moi, je voudrais dire aux gens, arrêtez d'être aigris. Arrêtez de dire que c'est une opération de com à récupérer les voix des jeunes en décrochage scolaire. C'est pas parce que dans les commentaires, les gens disent, super vidéo Macron était sympa pour le type lequel que je serais président, que j'avais le droit de vote, que j'aurais voté pour lui, que c'était le but de la vidéo. Non. Non, mais sérieusement, rendez-vous compte comment on est cool. On est quand même le seul pays où pendant une pandémie qui a fait plus de 100 000 morts rien qu'en France, le président de la République trouve le temps de faire un concours d'anecdotes sur YouTube. C'est génial. Tu sais, ça doit réchauffer le cœur des familles des victimes. Vive la France, vive l'humour et vive McFly et Carlito.
Merci Aymeric Lomprey. Reprenons notre souffle et profitons-en de ce souffle pour prendre un peu de recul, revenir en 2014.
Saison 1.
Exactement, okay. Avec le dessinateur Cabu, ça s'appelait « Si tu écoutes, oui, j'annule tout ». À l'époque, il y avait même un répondeur des auditeurs. C'était une séquence où les auditeurs pouvaient nous laisser leurs blagues.
Oui, comme ils n'ont pas été très bons, on a arrêté. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui ont été pas mauvais, on les a mis dans les florilèges. Voilà.
Je vous laisse la responsabilité du propos. Allez, on revient donc avec Cabu. Tout de suite, le sujet 2. À Hong Kong, la grève chinoise fait un rejet. Une révolte qui a un symbole, le parapluie, et un visage, celui de Joshua Wong.
700 000 personnes qui souhaitent une élection ne veulent rien dire par rapport à l'ensemble de la population chinoise qui dépasse 1,3 milliard. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi ils comparent les Hongkongais aux Chinois du continent. Est-ce qu'on mélange du Chanel avec du Pimki?
C'est Sunny Chen, chroniqueuse originaire de Hong Kong, on l'embrasse d'ailleurs. Et cette phrase, donc dans une de ses chroniques sur cette antenne, sur France Inter, je peux la relier par exemple à ce que dit Pierre Aski, le cofondateur du site Rue 89, qui est un fin connaisseur de la Chine et qui dit dans un article qu'il a posté aujourd'hui, pour les Chinois du reste de la Chine, les Hongkongais sont des enfants gâtés, gavés de trop de sacs Louis Vuitton, arrogants et ingrats vis-à-vis du reste de la Chine, qui est encore en phase de rattrapage de ce niveau de vie. Alors c'est vrai que quand on voit le nombre de Chinois qui achètent des Louis Vuitton, ils sont quand même en phase de rattrapage.
Vuitton, non mais c'est la contrefaçon voilà. Belge. C'est les Vuitton.
C'est pour ça que Cabu rigole. Il rigole voilà. pas de ma voix, il rigole de mon accent.
Discrètement. Tout à l'heure, vous parliez d'un pays et deux systèmes, mais regardez chez nous, c'est un pays et 36 systèmes D, mais ça marche quand même. Donc ils peuvent prendre un exemple.
Alors cette société habituée à vivre en démocratie, Hong Kong, on rappelle que c'est l'ancienne colonie britannique, revenue pacifiquement dans le giron de la Chine il y a 17 ans. Il y a 17 ans, sans doute, vous faisiez des dessins.
J'y suis allé, figurez-vous, là-bas.
Ah oui,
eh oui. Mais c'était juste après le retour de Hong Kong à la Chine. Et c'était très calme. Mais il y a des traces de l'Angleterre. Il y a les tramways à doubles étages. Enfin, c'est un pays bizarre.
Et les Hongkongais ne se considèrent pas du tout comme Chinois.
Non,
pas
non,
du tout. Vrai. Ils détestent même qu'on fasse la comparaison.
C'est vrai. Et je me rappelle de l'hippodrome en plein centre. Imaginez l'hippodrome à Paris, à Place de la Concorde.
Ah oui.
Puis Paris comme des fous, comme les Chinois. Là, ça, ils parient. Ils aiment le jeu.
Et tiens, en France, les indignés, ça n'a pas pris. Je vous parle de ça parce que le mouvement s'appelle aussi Occupy Central. Oui. Occupy, c'est voilà, inspiré des indignés, bien sûr. Et en France, les indignés, ça n'a pas pris du tout. La dernière révolution avait pour symbole un sweatshirt rose à capuche. Et comme visage, Brigitte Bardot, quand même. Est-ce qu'en France, la révolution est devenue beauf, Cabu?
Avec Brigitte Bardot, vous avez raison.
Brigitte, oui, sans Brigitte Bardot.
Ah oui. Oui.
Bon, avec Brigitte Fargeau aussi. Hein,
Charline, est-ce que vous, quand même, pouvez répéter Occupy Wall Street?
Occupy?
Non, sympa, mais c'était bien. Occupy, ça nous plaisait beaucoup avec André.
C'est un mouvement de Stéphane Courbit.
Rattrapez-moi quand c'est comme ça.
C'est un mouvement de Stéphane Courbit.
Vous écoutez rien.
Je voulais faire réagir Cabu, moi. Donc, mettez votre grain de sel, tiens, dans notre émission, parce que comme on traite de sujets importants, vous en avez certainement aussi à nous dire, au 01 56 40 69 51.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Si tu écoutes, j'annule tout.
Et donc si vous laissez un message, eh ben nous on écoute tout. Enfin j'écoute tout. Ben, si...
Ah Alex, si tu... Vous avez 5 nouveaux messages.
Je viens de finir de laver ma 4L. Elle est nickel. Hein. Je voulais savoir où c'est qu'il faut que je m'adresse pour toucher le super bonus. Parce que aux infos, si l'on dit aux infos, super bonus pour les voitures propres.
Nouveau message.
Oui, c'est moi ici à l'appareil. Hein. Je comprends pas ici. Tu parles de rock à CDC, de tout le monde, mais tu me mets une chanson qui parle de claque et à l'attaque et sur un rythme complètement fade. Mais tu passes quoi ici à la programme? Vous êtes en vacances ou en grève?
France Inter. Intervenez.
Nouveau message.
Dédé, c'est Dédé Manoukian. Hein.
Ouais.
En direct de Dijon, je fais l'effort de t'écouter. Mais la Motown... Me montonner.
Nouveau message.
Tant d'huissiers réunis dans une manif et personne ne pense à tirer dans le tas. Pauvre France.
Nouveau message.
Allô oui, bonjour, c'est Antoine de Shop 30, le service qui vous permet de choper en moins de 30 minutes. Voilà, on nous a appelé pour un certain André Manoukian qui galérerait pas mal à choper une certaine Clara Dupont-Mono. Alors voilà, on est venu pour l'aider avec un slow de la loose. 1, 2, 3.
Oh non.
On ira où tu voudras quand tu voudras.
Ça peut marcher.
Fin des nouveaux messages.
Alex, qu'est-ce que vous auriez maintenant en magasin pour revenir en cette année 2021, année riante hein, s'il en est?
J'ai un duo, les Stone et Chardin de la Vanne. J'ai Frédéric Fromet et Constance qui brassent du vent parce que ils nous parlent des éoliennes.
Eh bien, événement majeur cette semaine sur le thème de l'environnement, le grand spécialiste Stéphane Bern a pris parti contre les éoliennes. Alors j'en ai invité une à chanter avec moi. Éolienne, éolienne, éolienne.
Oh oui,
c'est moi. C'est quoi, mec, ton problème?
Tu gênes Stéphane Bern, tu en l'es dit, tu ruines sa mise en pli.
Le pauvre biquet, il est tout décoiffé.
Oh! Éolienne, éolienne, éolienne!
C'est toujours moi! Qu'est-ce qu'elle a mon allure?
Il y a que tu défigures le panorama de Monsieur Patrimoine.
Non mais j'y crois pas, je suis moins grosse qu'une cathédrale.
Oh! Nya 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 nya. Nya 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 nya. Éolienne, éolienne, éolienne.
Oh, tourne bien. Est-ce que vraiment je gêne?
Y'a pas que Stéphane Bern, y'a Xavier Bertrand, il y a Marine Le Pen.
Pourvu que le vent chasse leur mauvaise haleine.
Oh, éolienne, éolienne, éolienne.
Oh, gonfle bien. Tu vas me lâcher les pales.
C'est pas moi, c'est Stéphane. Il dit que tu pollues, que tu sers à que dalle.
Je glande et je pollue moins qu'une famille royale.
Oh, nya 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 nya.
Nya 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 nya.
Éolienne, éolienne, éolienne.
Oh, j'ai mal au bras. C'est quoi tous ces reproches?
On te dit que t'es moche avec ta nacelle, ton mât et ton rotor.
Je suis quand même plus belle que la duchesse de Windsor.
Oh, éolienne, éolienne, éolienne.
Heureusement que je me suis épilée sous les bras, Fred. Hein. Ça commence à bien faire.
C'est toi qui manques pas d'air, t'es pas renouvelable. Enfin, c'est ce que j'ai lu.
Pourvu que Stéphane Bern ne le soit pas non plus.
Oh, nya 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 nya. Nya 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 nya.
Merci.
Merci.
Fred, c'est super cool. J'ai hâte que tu me proposes de faire l'aqueduc.
Et voici que 18h approche, c'est donc le moment de se quitter. Mais pour mieux se retrouver demain, Alex, pour un nouveau voyage dans les souvenirs jupitériens, et nous avons choisi de réentendre Franck Dubosc et Catherine Yégel.
Ouais.
Deux salles, deux ambiances, c'est demain.